Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Avec David Douillet, Jérôme Pinault, Simon Dutin, Fred Veil ce matin, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Il est 11h07 et vous écoutez RMC. Bonnes vacances. Si vous en avez, bon courage. Si vous travaillez, bon courage aussi. Si vous êtes sur la route des vacances et si vous vous réveillez seulement, bah, vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast des grandes gueules du sport dès maintenant. On était notamment avec des invités exceptionnels, les porte-drapeaux Mélina Robert Michon pour les JO et Alexis Anquinquant pour les Jeux Paralympiques. On a aussi parlé longuement du capitana de Kylian Mbappé. C'était à 9h30. Dans un instant, on va parler vélo avec Vingegaard, Pogacar, le duel au sommet. Est-ce que le Danois a repris l'avantage sur le Slovène? Le débat caché, vous le savez, ce sera dans 30 minutes. Et à 11h45, les GG contre-attaquent. Les GG prennent les commandes de l'émission en proposant un débat. Vous pouvez voter sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. Le grand gagnant, on le connaîtra à 11h45. Vos propositions, les GG. Fred Weiss.
Alors hier, les deux équipes de France de basket se sont vues opposées à la Serbie. Alors l'équipe de France féminine s'est bien comportée, très bien comportée, même en gagnant. Mais par contre, les garçons ont perdu. Et ma question, c'est est-ce que l'équipe de France est inquiétante avant les Jeux Olympiques?
Très bien, clair, carré. Vous pouvez aller voter pour Fred. Jérôme.
Eh bien, moi, lundi dernier, le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair, a donné sa sélection pour les 4 coureurs qui participeront à la course en ligne et olympique et le contre-la-montre avec Kevin Vauclin notamment. Je vais vous parler des grandes chances de médailles que l'on pourra avoir sur cette épreuve olympique.
Parfait. David Douillet.
Est-ce que les Jeux se déroulent en France?
Bah oui.
Question. Oui.
Oui.
Est-ce qu'on en parle? Non.
Bon,
pas assez.
Même.
Le parcours de la flamme, l'avènement des Jeux totalement éclipsé par l'actu politique du moment. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui.
Place au jeu, place
oui.
au sport.
Bon.
D'accord, très bien. C'est à retrouver également sur le compte Twitter X des grandes gueules du sport. Et Simon, ton débat?
Depuis que je regarde du foot, l'Euro de foot là qui se conclut demain, c'est de très loin le pire en termes de niveau de jeu auquel j'ai assisté. Je me demande si la finale sur le papier 5 étoiles entre l'Espagne et l'Angleterre est une bonne chose. En gros, l'Espagne est l'équipe qui a montré ce qui ressemble le plus à du football durant la compétition. Je me demande si une victoire de l'Espagne demain soir en finale suffirait à sauver cette édition 2024 de l'Euro.
Bah, vous avez fait 4 belles propositions, 4 beaux débats. Je sais pas pour qui je vais voter, je vais aller voir ça. Mais c'est à vous de choisir, vous le savez, ceux qui nous écoutaient tous les matins. Vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport et le résultat à 11h45. Mais tout de suite, dans les GG, on va arbitrer un autre duel au sommet, celui-ci, sur les routes du Tour.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Allez, c'est parti.
Voilà, Pogacar attaque.
C'est parti pour l'attaque de Pogacar.
Alors que Vingegaard, accompagné de Jurgensen, est en train d'essayer de revenir sur le maillot jaune.
Ouais, et ils sont en passe de réussir cet objectif. Ils ont une vingtaine de mètres de différence.
Il n'y a rien à faire, je te domine.
Allez, Pogacar qui attaque. Pogacar qui attaque pour aller peut-être prendre les points de la montagne ou peut-être pour une attaque définitive.
Oh,
Vingegaard
oui.
qui n'arrive pas à suivre.
C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs.
Vingegaard qui est en train de bien revenir là sur Tadej Pogacar. Il n'y a plus qu'une quinzaine de mètres d'écart. Vingegaard est à 5 mètres derrière Pogacar. Est-ce que Pogacar n'est pas en train de caler?
Tout est fini pour vous, maître.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
Il reste 900 mètres pour Pogacar et Vingegaard.
Vingegaard
ou Pogacar? Vingegaard ou Pogacar? Vingegaard ou Pogacar? C'est Vingegaard qui va passer en tête. Vingegaard qui s'impose à rien, qui vient prendre des bonifications. C'est peut-être le grand vainqueur de cette étape ici au Lyon.
Pour moi, le mal absolu, c'est vous.
Vingegaard ou Pogacar, vous l'avez compris, ce duel mano à mano que l'on va sans doute retrouver aujourd'hui sur les routes du Tour avec la grande étape de montagne à suivre avec notamment Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonjour les copains.
Salut, bonjour Christophe.
Ouais, il est en pleine forme.
Christophe.
On va se régaler effectivement aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'en reparler. Tadej Pogacar qui est pour l'instant maillot jaune avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard. Pourtant, cette semaine a été marquée par la victoire du Danois au Lioran, juste devant le Slovène. Une victoire qui ressemble à un coup parfait pour le double vainqueur de la grande boucle. Alors, est-ce que Vingegaard a repris l'avantage sur Tadej Pogacar? Oui ou non? Simon Dutin.
Non, mais vraiment, c'est dur.
Bah, dis ce que tu penses.
Pas tout ce que tu penses.
Je vais pas dire ce que je pense parce que je sais justement je ne sais pas ce que.
Tu sais pas. Tu veux que je fasse un tour.
Mais je vais dire non parce que c'est ce que j'espère. Voilà.
Fred Weiss.
Oui.
David Douillet.
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Et Christophe Cessieux.
Oui.
Pour nous aider à répondre, on a fait appel à Arnaud Souk, qui est également sur les routes du Tour cette année. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
Ah oui, parce que cette semaine, le duel Pogacar-Vingegaard a eu lieu sur la route, on l'a entendu, mais pas seulement sur la route, aussi en coulisses.
Oui, avec des petites piques par voie de presse interposées, même si les deux champions se respectent beaucoup. Ils n'ont pas forcément été d'accord sur la conduite sportive à tenir depuis le début de ce tour. L'étape des chemins blancs, notamment dimanche, nous a offert une première passe d'armes sur la route et dans les déclarations, quand les deux ont réussi à se détacher du reste des troupes en compagnie d'Evenepoel, mais que Vingegaard a refusé de rouler avec ses deux adversaires, pas tellement du goût de Tadej Pogacar.
S'il n'avait pas eu peur de moi, je crois qu'il aurait pris des relais quand on était seul. Et en plus, il avait un coéquipier, moi pas. Ils étaient en surnombre.
Donc je pense qu'ils ont peur de moi.
Ils ne pensent qu'à Maru et ne pensent pas à Remco, à Primoz ou aux autres.
Et à l'inverse, Vingegaard estimait lui avoir fait ce qu'il devait faire et répondait sèchement à une phrase aussi de Remco Evenepoel, l'accusant dans ses mots d'avoir manqué de cran.
Donc je ne dirais pas un manque de couilles, je dirais juste courir intelligemment. Mais ma priorité, c'était de les suivre. Tout le monde n'a pas la même vision de courir. Parfois, c'est mieux d'être un peu plus défensif.
Voilà, l'intelligence tactique que revendique Vingegaard l'a poussé quelques jours plus tard dans le Massif Central. En refusant de se mettre dans le rouge sur une attaque éclair de Pogacar dans le Puy-Marie, avec à l'arrivée une victoire d'étape pour le Danois, finalement revenu à son rythme pour boucher les 30 secondes sur le petit cannibale. Et ça a encore fait parler de tactique dans les interviews, notamment à Tadej Pogacar.
Je pense que maintenant on peut la jouer de manière un petit peu plus calme. J'ai une bonne avance et je me sens très bien. On arrive sur la fin de la deuxième semaine et je me sens encore bien. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer, il faut maintenir cette avance le plus longtemps possible. S'il y a des opportunités, j'essaierai de les saisir, mais ce n'est plus à moi de faire la course et d'attaquer.
Voilà, reste à voir donc ce week-end si Pogacar sera capable de tenir ses paroles et de jouer tactiquement juste, de paroles d'experts. Et je vais vous laisser la parole, messieurs, il ne lui reste plus qu'une chose à faire désormais, coller au basque de Vingegaard en toutes circonstances.
Miam, 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 on va se régaler, on l'a bien compris. En tout cas, le duel est parfaitement lancé. Merci beaucoup Arnaud. On te retrouve tout à l'heure, 14h dans l'intégral Tour et dès midi dans la radio digitale du Tour de France RMC 100% route à retrouver sur l'appli RMC. Merci Arnaud. Alors, est-ce que Vingegaard a repris l'avantage sur Pogacar, Christophe, qui les voit de très près depuis le début du tour, tu as dit oui.
Alors oui, j'ai dit oui, mais alors il y a deux sortes d'avantages. T'as l'avantage chronométrique. Là, il reste encore évidemment entre les mains de Pogacar. Il a une 14 d'avance. C'est bien plus que lors du Tour 2023 où au matin du chrono, Vingegaard avec 10 secondes d'avance. Bon, on sait que 24 heures plus tard, il avait 7 minutes 35 de retard. Donc ça veut rien dire l'écart chronométrique, surtout qu'on arrive là vraiment dans les étapes les plus difficiles. Et le côté psychologique, là, je suis persuadé qu'effectivement Vingegaard a repris le dessus sur Pogacar. Pogacar aujourd'hui est en train de se dire, ben oui, il va falloir que je cours intelligemment, il va falloir que j'arrête de faire n'importe quoi et partir à l'assaut, et faire un peu le D'Artagnan ou la tulipe noire du Tour de France. Il va falloir que je colle à la rue de Vingegaard. Et s'il réussit à le faire, effectivement, s'il réfrène ses ardeurs d'attaquant invétéré, peut-être gagnera-t-il le Tour de France. Maintenant, Vingegaard, on arrive vraiment dans les étapes qu'il affectionne particulièrement. C'est son terrain. On arrive sur le terrain du Danois aujourd'hui. Et le Danois, franchement, personne, il y a trois semaines, aurait pu dire qu'il se serait trouvé dans l'état psychologique et l'état physique dans lequel il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il semble avoir retrouvé l'intégralité de ses moyens. C'est complètement incroyable, mais c'est la réalité. Et on va voir, effectivement, et je pense que Pogacar a compris que ses cauchemars de l'an dernier, d'il y a deux ans, étaient revenus. Et je pense que les nuits de Poggi vont être à nouveau hantées par ce diable de Danois qui va venir lui détricoter son maillot jaune pendant les jours qui viennent.
David.
Je suis pas d'accord, parce que c'est précisément l'inverse. Et Pogacar l'a dit dans son interview, on vient de l'entendre. Sa tactique, elle était simple. Il a pas attaqué comme un
essai. Est-ce que tu crois qu'il va réussir? Est-ce que tu crois qu'il va réussir à le faire? David,
mais
est-ce que tu crois
qu'il va... Tout était mesuré. En fait, sa tactique, elle était simple. C'était de prendre le maximum de temps là, dans la première semaine. Ce qu'il a fait, il est à 1.14. Et maintenant, il est serein et tranquille. Il a plus qu'à se coller. Donc, il va Je trouve ça, au niveau de la tactique, formidable. Il va se coller, puisqu'il a l'avantage, c'est lui qui est en tête, il va se coller dans la route de Vingegaard, et c'est Vingegaard qui a la pression. Je suis désolé, c'est Vingegaard qui doit aller au charbon. Parce que si Vingegaard, il continue à faire son poisson pilote, là, ce qu'il a fait depuis le début du tour, eh ben il va pas gagner le tour. Donc c'est à lui d'aller chercher, de sortir les tripes. Et Pogacar, derrière lui, bien plus en forme que l'année dernière, bien mieux préparé, derrière lui, ben moi je demande à voir aujourd'hui.
Tu l'as trouvé vraiment en forme l'autre jour dans le Luron, quand il attaque et qu'il se fait rattraper par Vingegaard, rattraper par Evenepoel. Moi, David, je le trouve moins souverain que je le pensais. Et je pense qu'effectivement,
bah oui,
Giro plus Tour de France, on pensait que c'était facile pour Poggi. Et je pense que c'est pas si facile que ça.
Eh ben, je te renvoie à la même chose. Est-ce que tu vas trouver Vingegaard plus en forme que Pogacar pendant le contre-la-montre? Eh ben non, il était derrière, comme il a lâché beaucoup de watts dans la première semaine, parce que c'est Pogacar qui a fait tout le Tour de France à lui tout seul, il est bien évident que l'autre, en suivant la roue, il est plus vrai à ce moment-là,
et qu'il l'a rattrapé. Il y a 4 mois, et qu'il le bat. Vingegaard était à l'article au mois d'avril, il se retrouve 3 mois plus tard, et il bat Pogacar dans une arrivée au sommet. Tu trouves qu'il n'est pas en forme?
C'est pas un duel, c'est lui qui fait tous les efforts dans la pente, tu rigoles ou quoi?
Douillet ses cieux là, c'est comme Vingegaard, Pogacar, faut en laisser un peu aux autres, hein. Quelques miettes peut-être, Fred.
Ben, je vais prendre quelques miettes si on m'en laisse un tout petit peu, mais c'est vrai que moi, si j'étais dans la tête de Pogacar, je me poserais des questions. En fait, il a un chewing-gum collé à lui tout le temps, et tu te dis que normalement, Vingegaard va être de mieux en mieux, il va progresser encore, il va être mieux sur la dernière semaine. Donc tu te dis, j'ai essayé de le distancer, j'ai pas réussi. Finalement, quand je suis parti à 30 km de l'arrivée, le mec m'a rattrapé et il a gagné l'étape. Tu commences à te poser des questions, et je pense que psychologiquement, cet ascendant psychologique dont on a besoin quand c'est chaud, quand c'est dur, je pense que c'est Vingegaard qui l'a récupéré. En fait, j'ai vu une scène qui était incroyable. On voit un moment Pogacar qui se déporte juste pour prendre un bidon, hein. Vingegaard, il était déjà derrière lui. Il le suivait. C'est son ombre. C'est insupportable. Ça doit être insupportable.
Il a gagné une seconde.
On pensait que ce mec était mort. Je pense que Pogacar s'est dit, les 4 premiers jours, déjà, je les mets tous minables. Déjà, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il a un mec derrière qui lui colle au basque tout le temps et qui peut, sur les étapes qui arrivent, être encore meilleur. Donc, je me dis que concrètement, c'est fort.
Sur la pente psychologique, il a inversé la tendance. C'est-à-dire que, c'est lui qui est en force. Sur le premier duel, physiquement à égalité de force, c'est lui qui a gagné au sprint de très peu. Et évidemment qu'il a encore beaucoup de retard, Vingegaard. Mais son équipe a bien voulu nous raconter ce qu'elle veut. Depuis 85 jours, il n'était pas en forme. Il a failli pas venir au tour. On va voir. On est content déjà qu'il soit au départ. Ça, c'était du faux. Et je pense pas que Pogacar et son équipe soient tombés là-dedans. Maintenant, le premier duel, il attaque au Pumari. Il prend 30 secondes. Le col d'après, ça ne dure que 4 km 800. Et Vingegaard revient à 2 km/h plus vite que lui dans cette bosse-là. Ça veut dire qu'il est plus fort, il était plus fort dans la montée. Et évidemment,
il était plus frais, c'est différent.
Plus frais,
il était
plus fort,
parce qu'il a rien foutu la première semaine.
Avec ce qui s'est passé depuis le début de cette préparation du Tour de France, depuis 85 jours, il y en a un qui vient et qui a beaucoup de jus et qui est déjà en forme. Et on sait qu'un coureur qui a pas couru et qui est déjà en forme, il va monter en pression. Alors qu'il y en a un autre qui a fait un Giro, certes, il s'est baladé, mais il arrive avec une certaine fatigue. Et je peux pas imaginer que Pogacar ne puisse pas penser à un moment donné, est-ce que je vais pas coincer en troisième semaine, en sachant que Vingegaard, selon toute vraisemblance, devrait lui progresser. Ce n'est pas un coureur comme les autres, on le sait. Donc à partir de cette étape du Luron, je pense que Pogacar était très serein jusque-là et il a eu un coup au moral et il se dit maintenant, oui, il est dans ma tête, oui, il est dans mes roues. On aura une première explication aujourd'hui. Il faudra courir différemment. À l'avantage de Pogacar, c'est 1 minute 14 et c'est beaucoup entre deux immenses champions. Et il y a aussi
la faculté.
Et il y a aussi la faculté.
En contre-la-montre l'année dernière, Jérôme?
Il lui a mis une 38, je crois.
Une 38. Ouais, mais c'est pour ça que le dernier chrono de Nice est très important. Mais avant, il y a de la haute montagne. On va avoir des vraies réponses. Et ce qu'il faut pour gagner le Tour de France, c'est une grande forme, mais aussi une grande équipe. Et là, pour l'instant, Vingegaard, il montre des signes de force. En revanche, il n'a pas l'équipe.
Il n'a pas la grande équipe.
Il montre des signes de force parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Et tu verras quand il aura produit des efforts, parce que c'est à lui d'aller chercher les secondes et les minutes aujourd'hui par rapport à Pogacar, qu'il va lui aussi laisser des cartouches et que lui va se retrouver aussi dans la même situation que Pogacar, avec un Pogacar qui est juste derrière,
heureusement qu'il a pas
coincé au coin du bois.
Non mais alors moi ça m'ennuie toujours dans les débats cyclisme d'avoir l'avis inverse de Jérôme Pinot. Bien que David Douillet soit en train d'expliquer le vélo à Jérôme Pinot,
que Jérôme Pinot a toujours raison, c'est ça que tu veux dire?
Quand t'es vraiment pas d'accord avec lui, il faut quand même t'interroger malgré
intérêt
cela.
À avoir des arguments en tout cas.
C'est-à-dire que tout peut être pris dans les deux sens. C'est-à-dire que Pogacar, certes, a couru le Giro, mais Vingegaard, on était déjà surpris qu'il soit aligné et en forme au Tour de France. À partir du moment où il s'est pointé au Tour de France, on en a conclu qu'il était capable de le gagner. Mais bon, il a passé 85 jours sans courir. Enfin, je veux dire, il avait pas couru en compétition avant le Tour de France. Il n'est pas interdit de penser que lui aussi... Il paye les efforts en troisième semaine. Pourquoi seul Pogacar serait amené à décliner
et Vingegaard le Giro.
Christophe a rappelé 1:14 de retard. Il va falloir aller les prendre à Pogacar. Il va falloir attaquer Vingegaard. Moi, je rappelle que la seule fois où j'ai vu Vingegaard mettre une raclée à Pogacar, c'est dans l'étape du Granon il y a deux ans.
Le code et de l'année l'année dernière.
Et grâce à un gros collectif.
Merci Jérôme. À l'époque, la Visma avait des mecs qui ne sont pas là cette année. Moi, j'attends. Encore une fois, je ne demande qu'à voir Vingegaard prendre ses responsabilités.
Je te rejoins, Simon.
Ok, Coco, tu sais quoi, je vais te mettre 1:30 aujourd'hui et là, je poserai un genou à terre et je dirai, ok, je me suis planté. Moi, peut-être que Pogacar est moins dominateur que ce qu'on pensait en début de tour, mais pour l'instant, c'est quand même lui qui attaque à chaque fois, c'est-à-dire qui a la confiance, qui pense qu'il peut battre Vingegaard.
Oui, mais Vingegaard, il annonce lui-même qu'il va pas continuer parce que justement, c'est pas la bonne tactique à adopter. Donc concrètement,
il va courir différemment, ça c'est sûr.
Non, mais il y a un élément. Il y a un élément dont on ne parle pas.
Ok, ce que fait Vingegaard dans le Lyoran, dans l'étape du Lyoran, c'est exceptionnel parce qu'il prend d'abord un éclat.
Et ça sème le trouble dans la tête de Pogacar, Simon, tu pourras pas dire.
Non, mais il y a un élément qu'on a occulté.
Que Pogacar, lorsque Vingegaard rentre sur lui, alors qu'il avait creusé l'écart, il doit se dire oula, ouais, il est fort, il est costaud. Mais en même temps, c'est toujours Pogacar qui attaque. Et dans un premier temps, Vingegaard, il peut pas y aller au moment où Pogacar démarre. Donc, moi, j'ai tendance à me dire,
okay.
Prime à l'attaquant, prime au mec qui a le maillot jaune et qui, encore une fois, a 1:14 d'avance sur le deuxième.
David.
Ce qui doit tracasser Vingegaard, c'est qu'il sait pertinemment qu'il a une équipe qui est moins forte que celle de Pogacar. Et ça, c'est indéniable. L'équipe la plus forte, et Dieu sait si pour gagner le Tour de France, il sait d'abord l'équipe la plus forte qui doit
épauler son leader. Même si Van Aert est en train de monter en pression.
Et aujourd'hui, force est de constater, après plus d'une semaine de tour, que c'est UAE qui mène la danse et qui mène le peloton et qui fait sa loi, qui dicte sa loi. C'est pas la Visma qui fait le boulot. Je suis désolé.
David,
donc Vingegaard, je le sais ça.
N'oublie pas qu'hier, l'UAE a quand même perdu garçon qui s'appelle Ayuso, qui est la nouvelle petite pépite du cyclisme espagnol qui est programmée pour devenir un vainqueur de grand tour dans les années à venir, victime du Covid. Et là aussi, psychologiquement, quand tu sais que dans ton équipe, il y a un mec qui a été obligé d'abandonner à cause du Covid, tu te dis, j'étais dans la chambre avec lui, j'étais au massage avec lui il y a quelques jours. Là aussi, psychologiquement, ça peut avoir son influence et... en tous les cas, il y a le spectre du Covid qui est en train de revenir sur le Tour de France et il est à l'intérieur de la formation rurale.
Je te connais par cœur. Quand tu commences à étaler la confiture, c'est que t'en as pas beaucoup.
parce que j'ai tout bouffé au petit déjeuner.
On a un beau duel. C'est ce duel, elle est magnifique ce duel. Ah, là, c'est les petites piques entre les deux. Là,
Christophe, concernant le Covid, il est dans le peloton. Il est dans le peloton. Certes, chez UAE, mais il est dans le peloton. Les deux coureurs là, dont on parle, Vingegaard et Pogacar, sont roue dans roue, dans le peloton. Ils se serrent la main, ils se saluent. Le risque, il est permanent pour tous les coureurs du peloton, pour tous. Visma n'est pas à l'abri du Covid plus que UAE.
Non, mais en tout cas, Ayuso en moins, c'est quand même
une grosse perte avec la montée en pression et en puissance et en forme de Wout Van Aert, qui va être un atout majeur dans la troisième semaine. Pour Vingegaard, alors c'est pas un grimpeur Van Aert, mais il nous a quand même montré qu'il a déjà pu monter l'école très très fort pour faire des différences. Donc évidemment que depuis le Lioran, la montée en pression, la perte d'Ayuso, il y a beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de l'équipe Visma Liesebike et de Jonas Vingegaard et en défaveur de Tadej Pogacar. Maintenant, le constat il est, aujourd'hui on arrive sur la première étape des Pyrénées et évidemment que Jonas Vingegaard va devoir prendre des risques, courir un peu différemment, voilà, et Tadej aussi, pour pouvoir renverser la tendance.
Et
mais
on
la tendance
s'ils en sont psychologique,
elle est du côté de Vingegaard.
Voilà. Et on verra s'ils en sont capables, et notamment la stratégie de Pogacar annoncée de rester bien tranquillement. On ne sait pas s'il en est capable, puisqu'il a souvent des fourmis dans les jambes. Christophe, c'est un des premiers tournants. Alors, on a parlé aussi d'autres tournants, évidemment, au début de ce tour, mais celui-là.
C'est le tour qui débute aujourd'hui.
C'est attendu quand même, le Tour Malais, notamment.
Ouais. Pour l'instant, c'était de la gnognotte. Là, c'est le vrai Tour de France qui commence avec les deux étapes dans les Pyrénées.
Bah, leur dire aux coureurs.
On sait que les organisateurs du Tour ont prévu une dernière partie complètement hallucinante. Il y a ces deux étapes dans les Pyrénées, ensuite alors, la journée de repos et l'étape vers Nîmes, et derrière les cinq derniers jours, ça va être l'euphorie, ça va être le feu d'artifice. On espère évidemment que ce ne sera pas bouclé ce soir.
Ne lance pas, Christophe, sur ce débat-là. C'était le débat de la semaine dernière. Là, on va plus s'ennuyer, c'est ce que te dit Christophe. Aujourd'hui, il faut tout regarder.
Si on va plus s'ennuyer, c'est que par définition,
Christophe,
je ne me suis pas ennuyé. Une seule
fois. Vous ennuyez, c'est que vous n'aimez pas le vélo.
Voilà. Définitif. Merci Christophe, en tout cas. Et belle étape à toi. On va te suivre évidemment sur RMC. 14h pour l'intégral tour. Et midi, je vous le dis, pour retrouver les amis d'RMC 100% route avec l'excellent Jérôme Pinault. Je sais qu'il est excellent dans cette radio digitale.
Ah bah c'est la star du pouvoir. C'est lui qui porte l'émission.
Non, mais il est magnifique. Ne ratez pas ça à partir de midi. Et 14h donc sur RMC avec Christophe Cessieux. Salut Christophe, on vient tout de suite sur RMC dans les grandes gueules du sport avec le débat caché. Ben oui, ils ne savent pas ce que c'est et ils vont être obligés d'en débattre. C'est ça le principe. C'est tout de suite sur RMC. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Ah oui,
François.
Je veux, on veut.
11h33 dans les grandes gueules du sport, en direct jusqu'à midi avant les paris RMC. David Douillet, Jérôme Pinault, Simon Dutin, Fred Weiss ce matin. On vous rappelle que évidemment tout est à réécouter en podcast si vous ne vous êtes pas réveillé à temps. À 9h30, les grandes gueules du sport commencent bien évidemment. On a parlé notamment de Kylian Mbappé. Dans 15 minutes, les grandes gueules contre-attaquent. Elles vous ont proposé un débat et c'est vous qui choisissez. Pour l'instant, sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est Fred Weiss qui est en tête avec son débat. Est-ce que c'est inquiétant la défaite de la France face à la Serbie en basket? 37%.
Eh oui, du vrai sport, David.
David est deuxième, 28%. Il veut parler des Jeux Olympiques, place au sport désormais. Et puis,
attends, c'est pas fini.
19% pour Simon Dutin et son débat sur la finale de l'Euro Espagne-Angleterre. Est-ce qu'une victoire de l'Espagne sauverait 7 euros? Jérôme, il faut rattraper le coup là, 16% avec l'équipe de France au JO, l'équipe de France de cyclisme qui a une carte à jouer. Vous pouvez encore aller voter, bien évidemment. Je vous rappelle aussi que vous pouvez gagner des cahiers de vacances RMC grâce aux grandes gueules du sport. Dans ces cahiers de vacances, vous allez retrouver toutes vos émissions sport de RMC, le Super Moscato Show, Rotten sans flamme, l'intégral tour et aussi bien sûr les grandes gueules du sport. Des jeux autour de l'Euro, autour de Roland-Garros. Pour recevoir votre cahier de vacances, il suffit d'appeler le 3216.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, mais elles vont devoir débattre. C'est le principe du débat caché. Excellente idée. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Le cheval à trois points de Tony Pastor. Extraordinaire au shoot de Tony Parker. Tony Parker face à Marc Gasol, il le joue, il passe hein, Tony. Il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment, c'est raté. Et la France est en finale.
Vous l'avez compris, on va parler de Tony Parker. Le maillot numéro 9 de l'équipe de France porté par Tipeee a été retiré et ne sera plus attribué chez les Bleus. Décision de la Fédération Française de Basket. Une cérémonie hommage avait lieu hier soir à Lyon en présence de l'ancien meneur de jeu. Son maillot a rejoint le plafond de la LDLC Arena. Retirer le maillot de Tony Parker en hommage à Tipeee, est-ce que vous trouvez ça génial ou ridicule? Simon Dutin.
Ridicule.
David Douillet.
Extraordinaire.
Jérôme Pinault.
Génial.
Fred Weiss.
Génial.
Simon, tu es le seul à avoir dit ridicule.
Bah, ridicule, c'est un peu dur. Je suis obligé de choisir. Je pense que autant le faire en club, comme et ça se fait beaucoup dans les franchises. D'ailleurs, je crois que son numéro 9 à San Antonio, il va être retiré, ouais, ou il sera retiré, ou il a déjà été retiré. Ça se fait beaucoup. Justement, c'est culturellement très américain. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, même dans les clubs de foot, de rugby. Enfin, bah, le rugby, c'est différent parce que le numéro a une autre signification. Mais je vais me vautrer encore une fois dans un cliché, un poncif. Je pense que l'équipe nationale, non, mais je veux dire, la sélection nationale, justement, elle appartient pas aux joueurs.
Mais pas toi, Simon.
À la nation, au pays, le bleu, au drapeau bleu, blanc, rouge, tu vois.
Voilà.
Et autant tu peux marquer
un peu d'énergie.
Tu peux marquer de façon indélébile l'histoire d'un club ou d'une franchise, comme c'est le cas aux États-Unis. Autant la sélection, je veux dire, on n'a pas enlevé le numéro 10 après Platini. On n'a pas réfléchi à le faire après. Bah,
peut-être qu'il aurait fallu le faire.
Non, mais je veux dire, à ce moment-là.
C'est moins culturel aussi dans d'autres sports que le basket.
On n'a pas enlevé le numéro de Rigaudot, excuse-moi, de Dubuisson.
Mais je vais pouvoir expliquer.
Et puis j'ai un autre argument. Celui qui va reporter le 9 derrière, il y a tout le poids de l'histoire. C'est génial.
Je termine et ça va certainement te fâcher. Va tendre le micro RMC dans la rue et tu leur dis le numéro 9 de l'équipe de France de basket. Les gens, ils vont te dire Tony Parker parce que c'est le seul joueur de basket français qu'ils connaissent. Mais en vrai, personne n'identifie le numéro 9 d'un maillot bleu à un joueur de basket et à Tony Parker. Ça ne représente rien. Donc c'est uniquement pour faire plaisir à Monsieur Parker et parce qu'on a envie qu'il joue un rôle dans les instances nationales.
Mais sincèrement, on parlait d'Mbappé. On parlait d'Mbappé tout à l'heure avec son rôle de capitaine de l'équipe de France. Excuse-moi, s'il y en a un qui a incarné l'antithèse de ce qu'a fait Mbappé, c'est bien Tony Parker au sein de l'équipe de France. Vous vous souvenez de joueurs qui voulaient pas venir, qui traînaient des pieds et de tout pour pas venir jouer l'équipe de France. Et lui qui était le taulier des sports à l'époque et qui gueulait comme un putois en disant vous allez bien jouer les copains.
Je vais rebondir sur ce que dit David, c'est hyper important. En fait, il faut se rappeler que Tony Parker est une star mondiale. D'accord? Qui était une star de NBA, qui est champion NBA, qui a son maillot retiré à San Antonio, qui a été MVP des finales. Et qui a surtout, pour revenir à l'équipe de France, et c'est là que je vais te rejoindre, il a permis à l'équipe de France d'être championne d'Europe déjà. Il a eu des performances très intéressantes,
mais
c'est
pas
ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il a converti tous les joueurs actuel est passé au fait de.
Mais on débat pas de la place de Tony Parker dans l'équipe de France.
Laissez-moi terminer.
Mais non,
je vous ai même pas expliqué.
Il n'arrête pas de retirer. En fait,
si, il a converti tous les
mecs. Il a revalorisé l'équipe de France.
Tous les mecs maintenant vont en équipe de France parce que Tony Parker.
D'accord, ça a été le locomotive. Il a ouvert les yeux aux mecs sur le rôle.
C'est un pionnier, c'est une locomotive. C'est un mec qui a sacrifié toutes ses vacances pour venir en équipe de France. Ce qui ne se faisait pas avant. Les mecs qui jouaient aux États-Unis, ils ne venaient pas en équipe de France. Pas autant. Pas avec autant d'amour.
Une minute d'applaudissement à la 9e minute de tous les matchs de l'équipe de France de basket en mémoire de tout ce que Tony Parker a fait pour le basket français. Mais il faut arrêter les bêtises.
Quel est l'intérêt de savoir si on reconnaît le numéro 9 en dehors du basket? Nous, les basketteurs, on veut savoir d'où on vient pour savoir où on va. On sait d'où on vient. On était dans la difficulté. On était dans le dur. Personne ne voulait aller en équipe de France. Tony Parker a converti tout le monde. Et j'en parle très ouvertement parce que je ne suis pas ami avec Tony Parker. On a des très bonnes relations. Mais moi, je ne fréquente pas Tony. Donc je le dis ouvertement. Sans Tony, l'équipe de France ne ressemblerait pas.
Ça valait de retirer le maillot et le numéro 9.
Mais bien sûr, ça mérite parce que
c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire du sport collectif en France. On n'a pas enlevé le numéro de Platini, ni de Zidane.
Si on continue à faire ça, c'est culturel. C'est le basket, c'est un sport américain.
Et en plus, c'est qu'un maillot, c'est qu'un numéro.
C'est un numéro. Et en fait, avant, on pouvait pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que le numéro allait de 4 à 15. Et c'est pour ça qu'on le fait.
Tu peux faire jusqu'à 99. Donc c'est tout à l'heure, on parlait de symbolique.
Pour respecter un mec qui a fait le taf en équipe de France et qui a converti tous ces mecs, et grâce à eux, on a Wembanyama.
Mais c'est
grâce
Jérôme.
Il peut pas y avoir de choses plus importantes que de se voir son maillot retiré. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un maillot retiré dans une France.
Je vais laisser parler, Jérôme, parce qu'il faut en parler là-dessus. Mais quand en équipe de France de foot, il y a le numéro 10 de Zidane, on sait que c'est le numéro 10 de Zidane. Ça reste le numéro 10 de Zidane.
Mais parce que c'est une position numéro 10 aussi, chez vous.
Mais au foot,
numéro 10, c'est une position.
Tu sais bien que le maillot change. Jérôme, j'aimerais bien entendre Jérôme là-dessus, parce qu'on t'a pas entendu.
Non, mais je pense que c'est une symbolique. Après, c'est qu'un numéro et c'est pas grave s'il n'y a plus de numéro 9. Ce qui est plus important, c'est que c'est symbolique. Tout à l'heure, on parlait de transmission des valeurs, transmission de l'histoire. Et je pense que de plus avoir ce maillot, mais qu'il soit exposé, qu'il ait appartenu à l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France, qui a, comme dit Fred, tout donné pour l'équipe de France, c'est pour moi très bien vu de la part de la fédération et des gens qui ont décidé cela, parce que ça montre que l'importance d'obtenir, de porter ce maillot, il faut être digne de le porter, et ça transmet un certain nombre de valeurs qu'ont pu mettre en place Tony. Moi, je trouve que pour un jeune joueur qui arrivera, qui fait 3-4 exploits et qui met le 9, bah non, en fait, non, fais au moins ça et tu prouves. Et ce 9-là, il est mis de côté. Il y a d'autres numéros, chacun crée son histoire, joue avec son numéro, et il y aura des 14, des 28, des 99 peut-être qui rentreront dans l'histoire du basket. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir retiré ce numéro pour montrer à la jeune génération, à la future génération, que ce truc-là, c'est la base, c'est l'exemple.
Mais il faut se rendre compte d'un truc, Jérôme, je vais juste rebondir sur ça, il faut se rendre compte d'un truc. La plupart des mecs qui vont être en équipe de France, c'est des mecs qui potentiellement vont jouer à NBA ou on joue en NBA, ou en tous les cas ont la volonté de jouer en NBA. Donc ça veut dire que pour eux, quand on retire un maillot, c'est quelque chose de normal, parce qu'en NBA, tout le monde le fait. Ouais. Donc c'est effectivement, c'est envoyer un symbole fort à tous tes jeunes joueurs en disant t'as un mec qui a été un pionnier, mais qui a fait tous les efforts, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du basket mondial et évidemment français, parce que maintenant on a Wembanyama qui va arriver. Donc pour moi, se rappeler un petit peu du passé.
Fred, je suis d'accord avec ça. On l'a déjà dit et on remet pas en cause la place de Parker. Mais ce que je vous pose comme question à ceux qui ont dit, c'est génial. Quand le numéro est repris par quelqu'un d'autre, il y a toute l'histoire qui va avec. Ça, c'est aussi ça, rendre hommage à quelqu'un.
Mais pas chez nous, en fait. Nous, c'est le contraire.
Oui, bah voilà.
C'est le voir affiché en hauteur.
C'est très américain. Bah, pourquoi la Fédération française de basket le fait?
Parce que c'est un sport américain. Je viens de te l'expliquer. Oui, tu vois, François, c'est à ton problème.
Je t'écoute pas.
C'est que la plupart des joueurs qui jouent en équipe de France ont joué, rêveraient de jouer en équipe de France.
Son maillot a déjà été retiré au Spurs.
C'est normal.
C'est magnifique, c'est mérité.
Non, mais ça va au-delà.
Ça va au-delà parce qu'il a permis à toute une génération d'Européens,
oui,
et pas de Français, d'aller en équipe nationale.
Mais je suis désolé.
Non, vous avez soulevé un problème. Important.
Rigaudeau, Ciara, c'est des mecs qui mériteraient.
Vous avez soulevé un problème important.
Eh ben voilà, il y a un problème d'équité entre les générations. C'est pas normal.
Vous avez soulevé un problème important parce que vous avez comparé des sports par rapport à d'autres. Vous avez comparé le hand, vous avez comparé le foot, on aurait même pu parler du rugby aussi. Là, il n'y a jamais eu de problème de recrutement ou de motivation à aller en équipe de France. C'était le cas dans le basket. L'équipe de France, avant Tony, était sinistrée par le fait que des joueurs boudaient l'équipe de France et ne voulaient pas y aller, voulaient pas faire l'effort. Et Tony a ressuscité l'équipe de France. Et rien que pour ça, ça mérite ce qui vient de se passer, je trouve.
D'accord. Non, mais tu es sur la même ligne que Fred. Alors toi, t'avais pas de problème de maillot en même temps, David Douillet, de numéro. Hein, donc ça, c'est vrai.
Ouais, on n'a pas retiré le kimono du judo français parce que David Douillet a pris sa retraite. Bon.
On aurait dû.
Hein? Évidemment.
Le respect dû à David Douillet, qu'est-ce qu'on
dit? Il y a une culture dans différents, chacun des sports. On aurait pu aussi retirer le 10 de Platini.
Mais c'est ce que je disais, Jérôme.
Mais là, c'est une culture américaine. Le basket tend vers les États-Unis. Le Graal, c'est les États-Unis. Et c'est ce qu'on fait. C'est les codes. Voilà, exactement.
Bon,
vous savez, dans le judo, il y a des codes japonais. Dans le basket, il y a des codes américains. Ouais, c'est les codes du sport, de ce sport. Voilà, moi, je suis content que ça soit respecté comme ça.
Oui,
et qu'on s'adapte en France de cette manière-là. C'est bien.
Ouais. Il faudrait des dossards aussi personnalisés pour le vélo, Jérôme.
Oui, mais...
on retirerait aussi les dossards.
Le 51, le 51.
Bah voilà,
mais pourquoi pas.
Le 51, il aime bien Simon, mais pour d'autres raisons. Non.
Excellent. On explique la vanne ou pas?
Non, pas du tout.
Il y a le 27 aussi.
Bon voilà, on a fait le tour sur ce débat, mais qui était un débat caché mais enflammé, et c'est ça qu'on aime dans les grandes gueules du sport. Bravo à vous, n'hésitez pas.
Et merci Simon, parce qu'il a été courageux quand même de contrer tout le monde.
Mais moi, j'adore me farcir tout le monde.
Moi, je te répondrai pas. Parce que
il s'en prend toujours à plus fort que lui, Simon Dutin, il a pas peur. Allez, 11h45, on revient dans un instant avec donc les GG qui contre-attaque. Le résultat dans un instant. Restez avec nous, vous avez encore quelques minutes pour voter, mais pas beaucoup. Allez-y sur le compte X des grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Et elles sont en forme, les grandes gueules du sport ce matin, à retrouver en podcast, bien sûr, si vous avez raté le début, c'est sur l'appli RMC que ça se passe. David Douillet, Jérôme Pinot, Simon Dutin, Fred Weiss, pour vous accompagner avant les paris RMC à partir de midi. Les GG qui prennent dès maintenant les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Vos GG vous ont fait 4 propositions de débat sur le compte X des grandes gueules du sport et ça y est, les votes sont clos. Quatrième et dernier, Jérôme Pinot qui avait proposé un débat sur l'équipe de France de cyclisme. La France a une carte à jouer, 16%. L'avantage c'est que t'as encore un peu de temps pour le proposer. Pas beaucoup mais tu pourras,
bravo, Jérôme, bravo.
Pourras retenter ta chance.
Je retenterai.
Troisième, 18%, Simon Dutin, pour son débat sur l'Espagne qui peut sauver l'euro si elle gagne la compétition. Toi aussi, tu pourras retenter demain. Tiens.
Je vous le reproposerai demain.
Comme ça, il aura moins à bosser. Ça lui va parfaitement. 30%, deuxième, il s'est bien battu, David Douillet, qui voulait parler des Jeux Olympiques. Place au sport désormais. Bravo, David.
J'espère que je n'aurai d'argent. Pas à le reproposer.
Bah oui, bah, voilà. mais bon, on aura l'occasion de reparler des JO quand même, ouais. Sur RMC, on en parle beaucoup. Et puis, avec 36%, c'est le vainqueur du jour, il le voulait, cette victoire.
C'est mérité, Fred.
C'est mérité.
Pour une fois,
Fred Weiss.
Quand tu travailles, ouais, bon, tu dois être mérité.
Il faut préciser, c'est sur France-Serbie hier, alors les garçons qui ont perdu contre la Serbie, les filles ont gagné hein, contre la Serbie hier, il faut préciser que Fred y était hier à Lyon.
Oui, j'étais.
Et qui a fait un long voyage.
En bus.
En bus,
oui.
Pour nous rejoindre ce matin.
D'où la fatigue ce matin.
Bravo, exactement. Fred.
Ben, merci beaucoup.
Tu vas quand même
j'ai eu la chance d'être à la cérémonie de
du
maillot retiré de Tony Parker. Donc, c'était vraiment génial par rapport à ça. Alors, oui. J'ai eu la chance d'assister à ce match aussi, qui était un match hyper intéressant parce que dans la préparation, parfois les Français n'affrontent pas les équipes suffisamment armées pour se préparer.
79 à 67 hein, de la France contre la Serbie.
Mais concrètement, il y a eu des périodes où on a senti une vraie différence dans le jeu. Souvent, on a critiqué l'équipe de France parce qu'ils affrontaient des adversaires trop faibles pendant la préparation et on arrivait sur les compétitions, on n'était pas bien. Notamment lors de la dernière Coupe du Monde où l'affrontement était pas suffisant et on s'est retrouvé directement massacré par le Canada. Là, on attaquait un gros morceau, c'était le vice-champion du monde qui avait été vice-champion du monde sans Nikola Jokic et cette fois-ci, il était là. Donc concrètement, ça change beaucoup de choses en plus et c'est un ajout énorme. Alors, défensivement, j'ai pas grand chose à dire. Alors oui, il y a eu quelques errances. J'ai trouvé Rudy Gobert un petit peu dans le dur, ne tenant pas forcément ses duels, ne jouant pas assez. Mais c'est en attaque que j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes. Alors oui, il y a un créateur génial qui est Victor Wembanyama, qui attire l'attention, qui attire les défenses et qui permet à ses coéquipiers de se mettre parfois en valeur. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cette équipe. Il n'y a pas beaucoup de créateurs. Par exemple, Nando Decolo joue moins de 5 minutes sur ce match. Je m'inquiète un petit peu sur le fond de jeu. Je m'inquiète un petit peu sur cette volonté de bouger le ballon, de faire bouger les défenses. Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce que juste en face c'était dur et on est dans la période de préparation où il nous reste 15 jours encore avant les Jeux Olympiques? J'espère. En tous les cas, c'est vrai que je me répète, défensivement c'était intéressant. Offensivement, je trouve qu'il y a encore énormément de travail.
Vous êtes inquiet, messieurs?
Non.
Non, parce que ça reste des matchs de préparation, mais c'est sûr que sur le fond, et quand on entend Fred, moi je suis pas un grand spécialiste, on peut s'inquiéter du jeu. Maintenant, j'ai toujours tendance à dire que le jour de la compète, tout change, que c'est une compétition qui commence, on est en France, il y a une grande nation et les joueurs retrouvent, pas par miracle, mais souvent leur très haut niveau et se surpassent et vont chercher les 110-120% grâce à l'événement. Et moi, ouais, je suis pas inquiet par rapport à ça.
Mais la fluidité en attaque, tu vois, c'est ça qui m'inquiète.
Non, mais après, moi, je suis pas un spécialiste du basket, mais je suis pas inquiet pour l'équipe de France parce qu'on a sur le papier l'une des meilleures équipes au monde et on peut s'imaginer que grâce à l'événement et grâce à tout cela, tout ce qui va être autour de cela, le public, la ferveur, ça va revenir, va reprendre son ordre.
Les jeux à domicile.
On a la chance d'avoir peut-être le meilleur joueur au monde en ce moment dans notre équipe. Et moi, ça me rassure, franchement. Après, ça va s'organiser autour de lui, et encore mieux, et le niveau de jeu va s'élever forcément, obligatoirement.
Alors, le meilleur joueur du monde, il était juste en face, au même poste, mais juste en face, mon cher David.
Oui.
Non, mais c'est une question de vue. Moi, je pense que c'est Wembanyama. Mais bon.
David, moi, je te dis, c'est peut-être le futur meilleur joueur. Ça, j'ai quasiment aucun doute. À l'instant T, Nikola Jokic, sur certaines actions, a montré toute sa classe et a montré qu'il était dominant et plus que Wembanyama. Okay.
Et puis, moi, je veux pas gâcher la fête. J'espère que les jeux vont nous booster à domicile. Mais moi, j'ai grandi dans un monde où, la Serbie est désormais une émanation de ce qu'était la Yougoslavie, qui est une des meilleures nations de l'histoire du basket. Je veux dire, excusez-moi, on tombe pas de l'échelle quand on perd contre la Serbie. Enfin, je veux dire, c'est tout.
Oui, c'est une grosse nation, évidemment.
C'est quand même.
Oui, mais notre objectif, on sait qu'il est très élevé.
Par rapport à l'objectif,
on n'est pas une des meilleures nations. Je reviens sur ça. On est quand même l'Allemagne qui est championne du monde. La Serbie qui est renforcée par Nikola Jokic. Ouais. Le Canada, les États-Unis.
Mais pour moi, on est derrière toutes ces nations.
On est derrière ces quatre nations.
Donc il y a du boulot. Merci beaucoup en tout cas pour ton débat, Fred.
Merci.
Et on en reparlera bien sûr dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup, David. Merci, Jérôme. Merci, Simon.
Merci à tous.
À très bientôt. Belle journée à vous. Vous avez fait une magnifique émission. Les GG qui reviennent demain à 9h30, midi en direct sur RMC. Et tout de suite, c'est l'heure des paris RMC avec la Dream Team au programme du foot. Il y aura également le Tour de France et du rugby avec un match des Bleus ce soir au programme. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.